Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Voilà un printemps européen riche en mobilisation citoyenne. En Serbie, en Hongrie, en Roumanie ou en Pologne, on défile dans la rue. Bonjour Avmino.
Bonjour Frédéric.
Vous nous proposez aujourd'hui un petit tour de cette Europe centrale qui proteste et dans les rangs des manifestations, beaucoup de jeunes qui réclament plus de transparence et plus de démocratie. Et on commence avec la Serbie et les manifestations répétées ces derniers jours contre le président tout récemment élu.
Oui, depuis déjà 6 jours, les Serbes manifestent suite à la victoire écrasante du Premier ministre Aleksandar Vučić dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 55% des suffrages. Pour eux, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase de la démocratie partout dans le pays. Ils défilent désormais contre la dictature et le marasme économique. Au départ, les jeunes, surtout, tenaient le pavé, souvent joyeux, plutôt festifs. Mais depuis quelques jours, les plus âgés ont aussi rejoint les cortèges. Et selon les témoignages, ils regrettent que le rêve serbe soit dorénavant de partir à l'étranger à la recherche d'une vie meilleure ailleurs en Europe ou aux États-Unis et réclament des conditions de vie décentes dans leur propre pays. Selon les chiffres d'une étude récente, en effet, les salaires moyens ont reculé de 402 à 374 euros depuis qu'Aleksandar Vučić est arrivé au pouvoir en 2012.
En Hongrie aussi, on grogne, mais cette fois-ci pour prendre la défense d'une institution du pays, une université mythique où l'on étudie en anglais.
Oui, à Budapest, on manifestait en effet dimanche aussi pour afficher son soutien à l'Université d'Europe centrale, l'UEC, et faire barrage à l'adoption d'une loi qui permettrait sa fermeture. Alors cette université, financée par le milliardaire américain d'origine hongroise George Soros, qui est devenu l'un des pires ennemis du Premier ministre Viktor Orban, avait été créée en 1991, au moment de la chute de l'URSS, pour promouvoir, je cite, « la bonne gouvernance, le développement durable et la transformation sociale, comprendre pour former la jeunesse à autre chose que le communisme. Depuis, elle a attiré sur ses bancs environ 14 000 étudiants triés sur le volet, dans des conditions d'études à faire pâlir de jalousie les infrastructures publiques hongroises.
Un pays où les jeunes sont bien décidés à se faire entendre, c'est la Roumanie, où depuis janvier, les enfants de la Révolution crient leur colère.
Et une colère déclenchée cette fois-ci par un décret promulgué en catimini par le gouvernement social-démocrate, c'était le 31 janvier à 22h, et qui dépénalisait partiellement les faits de corruption pour des sommes inférieures à 200 000 lei, environ 42 000 euros. Dans les défilés, deux générations de manifestants cohabitent depuis plusieurs semaines sur le pavé, ceux qui ont été déçus par le manque de réforme du pouvoir 20 ans après la révolution et la mort de Ceausescu en 1989, et l'autre, né après la chute du communisme, connecté éclairés, qui ne supportent plus la corruption et réclament plus de transparence à base de mots-clés résistent sur les réseaux sociaux. Ils rêvent d'un pays où ils peuvent enfin se construire un avenir et témoignent d'une confiance absolue envers les institutions de l'Union européenne. À l'heure où dans les pays fondateurs de l'Union, certains rêvent d'en sortir, cela fait réfléchir.
Enfin, on terminera avec la Pologne où le mouvement citoyen CODE, Comité de défense de la démocratie, mobilise les protestataires depuis plus d'un an.
Oui, depuis l'élection du PiS, parti droit et justice, au pouvoir fin octobre 2015, la mobilisation citoyenne n'a pas faibli, même si elle se fait peu entendre ces derniers mois en tête des revendications, et elles sont nombreuses, la sauvegarde de la démocratie, de la séparation des pouvoirs et du tribunal constitutionnel, la liberté des médias et la loi sur l'avortement qui est déjà une des plus restrictives au monde.
Merci Avmino, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Avis aux amateurs, les services secrets britanniques recrutent, mais pas n'importe qui, surtout des femmes qui ne représentent que 37% des effectifs du MI5 et du MI6. Comme dans de nombreuses entreprises, les services réalisent que la diversité est un atout. À Londres, Marie Billon.
Annie Machon a travaillé pour le MI5 pendant 5 ans. Elle était agent de renseignement dans le contre-terrorisme. Mais ce n'était pas son premier choix de carrière. Annie voulait être diplomate. Alors elle n'a pas reçu la fameuse tape sur l'épaule dans les couloirs de l'université par un professeur à lunettes qui se révèle recruteur des services secrets de Sa Majesté. Elle a reçu une lettre du ministère des Affaires étrangères lui disant qu'il y avait d'autres options pour elle. Appelez ce numéro. Elle a été surprise lorsqu'elle a eu le MI5, le renseignement intérieur au bout du fil. profil. C'était fin 1990. Il n'avait alors pas une très bonne réputation, dit-elle. Il n'était pas assez encadré par la loi. Mais après 10 mois de formation, elle a finalement décidé de rentrer dans l'agence. À l'époque, seuls 20% des agents étaient des femmes, estime Annie. Et même si elle pense avoir été recrutée en raison de son âge plutôt que parce qu'elle était une femme, sa féminité pouvait être un atout. Cela pouvait troubler certains suspects, dit-elle. Annie a quitté le MI5 en 1996 en claquant la porte et en accusant notamment l'agence d'employer des moyens illégaux pour obtenir des informations. 20 ans plus tard, les services ont changé. Maintenant, on y compte deux fois plus de femmes et ce n'est pas qu'une question de discrimination positive. Pour s'infiltrer dans les milieux, pour représenter et surtout comprendre toutes les strates de la société britannique, il faut des espions des deux sexes et de toutes les origines. Les services secrets se sont même rendus compte qu'il leur manquait une carte dans leur jeu, les mamans. Ils ont donc publié une annonce sur le site Mumsnet. Les femmes d'âge moyen et en milieu de carrière sont aussi une denrée rare dans les bureaux de James Bond et Mrs. M. Le but est d'avoir 45% d'agents femmes d'ici 2021 et le renouvellement des espions est en cours avec presque autant de nouvelles recrues féminines que masculines.
Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer.
L'insertion, la mixité sociale grâce au sport, le concept fait plus que jamais ses preuves. À Vilnius, en Lituanie, c'est un ancien entraîneur français, aujourd'hui travailleur social, Cédric Raffier, qui a mis le football au service de cet objectif. Son club, Vilnius Social Club, offre des entraînements à des jeunes en difficulté. C'est le reportage de Marielle Vitureau.
Le mardi après-midi et le samedi matin, les étudiants de Vilnius doivent céder leur gymnase. Ce sont les enfants qui s'entraînent. Pour cette quatrième saison, le Vilnius Social Club en fait jouer une soixantaine, sous l'œil bienveillant de Cédric Raffier, un passionné des crampons. Ce travailleur social, installé à Vilnius depuis presque 10 ans, est parti d'un constat simple pour monter son projet.
Les gens veulent faire de l'argent avec le sport et c'est difficile de trouver des activités qui sont accessibles pour les enfants qui viennent de la rue. Aujourd'hui, dans les clubs de sport, souvent, il faut soit être très doué. Et là, on a une chance d'avoir des activités de qualité, ou alors il faut avoir de l'argent. Et là, on peut se payer des activités. Donc, ce point de vue, un petit peu, utiliser le sport comme un outil d'éducation, c'était assez nouveau en Lituanie.
Silhouette menue et visage enfantin, le jeune Alexas ne fait pas ses 14 ans. Tous les mardis, il vient du quartier de Pilaité, à l'opposé de celui de Saulėtekis, le quartier des universités, pour suivre son entraînement.
C'est l'assistante sociale du collège qui m'a suggéré de venir ici. Il a suffi d'une seule fois pour que je m'accroche. Avec l'entraîneur, on se comprend bien, surtout quand il se passe quelque chose dans le jeu. Pour l'école, ça m'aide. Si d'autres s'entraînent à moi, j'arrive plus facilement à discuter avec eux.
Pour Cédric, le football, c'est un moyen pour accomplir son travail social. Les jeunes s'arbitrent eux-mêmes et à la fin de chaque séance, assis en cercle, ils analysent leur participation. Comment ont-ils résolu leurs différends, géré leurs émotions? 8 enfants dont s'occupe d'Angolé, animatrice dans un centre social de la vieille ville de Vilnius, participent à cette activité foot.
Parfois, nous inscrivons les enfants dans des clubs de basket ou d'art plastique, mais très vite, ils arrêtent. Ils ont du mal à s'intégrer car les autres jouent mieux ou dessinent mieux, tout simplement parce qu'ils sont plus calmes, ils ont plus d'acquis sociaux. Au foot, les enfants apprennent à former une équipe et même ceux qui ont le plus de difficultés à suivre les règles s'y rendent volontiers. Les changements sont visibles.
Travailleur social est une profession toute récente en Lituanie, apparue il y a 27 ans seulement avec l'indépendance. Elle a connu de profondes transformations, Cédric Raffier.
Je pense qu'à la chute du communisme, c'était surtout les églises qui ont pris un petit peu en main le travail social en Lituanie. Ça manquait de professionnalisme et maintenant, de plus en plus, on peut arriver à trouver des hommes qui sont travailleurs sociaux. Au début, en fait, l'image du travailleur social, c'était un petit peu la grand-mère qui s'occupait des enfants comme ça pour leur donner un petit peu à manger et puis terminer quoi. Et là, alors que maintenant les gens commencent à comprendre que le travail social c'est beaucoup plus que ça.
Le quartier de Nauliminkai est l'un des plus malfamés de Vilnius. Sur la route des dealers et des toxicomanes, il est séparé du reste de la ville par la voie de chemin de fer et la population y vit en vase clos. Kasparas, éducateur social, y fait du travail de rue. Il utilise aussi le foot pour entrer en contact.
On laisse toujours la technique un peu de côté quand nous jouons. Si un problème surgit dans le jeu, on le résout en parlant le langage du sport. Mais ensuite, on essaye toujours de développer et de trouver les liens avec le quotidien. Si deux personnes sont en conflit dans la vie réelle, comment alors se sortir de cette situation ?
Dans ce quartier, où plus de 300 enfants vivent dans des familles en grande difficulté sociale, Kasparas regrette encore et encore le peu de moyens dont disposent les associations qui leur viennent en aide. Elles fonctionnent en grande partie grâce aux bénévoles et aux dons.
L'État ne fait pas confiance aux ONG. Ils ont du mal à accepter l'idée d'accorder un financement stable et continu sur la durée. Il y a une volonté de contrôler le moindre centime qui leur est versé. Que ces associations puissent être des prestataires de services, parfois même plus compétentes que l'État, c'est un fait mal accepté.
Dangoulé, elle, est moins pessimiste. Le centre social dont elle dépend va être entièrement rénové grâce à des fonds privés.
Il y a de plus en plus de centres sociaux. La présidente de Lituanie a lancé un grand programme d'action sociale et désormais un travailleur social a par exemple la possibilité d'emmener gratuitement les enfants au cinéma. Il a aussi la possibilité de rencontrer la présidente et ça les encourage dans leur mission. Le regard sur le travail social change et nos interlocuteurs dans les différentes structures nous consultent plus fréquemment quand ils ont un problème.
Quant au Vilnius Social Club, il fait désormais des émules. L'une des universités de la capitale lui prête gratuitement son gymnase en contrepartie d'une collaboration avec les étudiants en action sociale. Cédric Raffi espère lui trouver les moyens de se développer. Les apprentis footballeurs sont encore nombreux à vouloir le rejoindre.
Fait-il bon vivre dans le monde et en Europe? Chaque année, le cabinet en ressources humaines Mercer établit sa liste et les critères sont larges puisqu'ils vont de la collecte des déchets à la criminalité en passant par les transports en commun. En Europe, c'est Vienne qui arrive en tête de liste. La capitale bulgare, Sofia, elle, n'a pas la cote. Dernière de la classe européenne, 115e au niveau mondial, derrière Bucarest. Alors Sofia est-elle invivable? Réponse sur place avec notre correspondant Damien Vodenicharov.
Sofia ressemble à un vaste chantier, et à une autoroute, si tant est que l'on considère le nombre de voitures et non les infrastructures, car depuis la chute du communisme, la capitale bulgare n'a pas pris la mesure de l'explosion démographique. C'est donc aujourd'hui qu'elle tente de rattraper le retard, ce qui peut, paradoxalement, contribuer au grand capharnaüm. Toute la circulation à Sofia est en train d'être repensée. Deux lignes de métro sont en service et une troisième est en construction, si bien que les grandes artères sont bloquées, ce qui engorge un peu plus le trafic. La mairie tente de convaincre les sofiotes de ne pas monter en voiture, mais c'est peine perdue car une grande partie de la ville est encore mal desservie. Pour fluidifier la circulation, on construit donc des bretelles de voies rapides sur deux étages. Une urbanisation trop rapide, se plaint Nelly, qui pointe de gros oublis.
Regardez bien autour de nous, on est en plein centre et il y a très peu de squares pour enfants. Il y a beaucoup d'absurdités aussi au niveau des transports et je ne parle même pas du stationnement payant. Le plan de circulation fonctionne mal. Peut-être qu'il faut que Sofia soit en dernière place dans ce classement pour qu'on puisse réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour notre ville.
Les ONG n'ont pas attendu le chaos pour faire pression sur les autorités. Sauf Sofia, par exemple, lutte pour le transport de nuit ou encore contre la fermeture de certaines lignes de tramway. En fait, la ville souffre surtout d'être mal gérée, explique Gergin Borisov de l'association Sauf Sofia.
Les dirigeants n'ont pas du tout une vision claire des choses. Les gens commencent à se rendre compte de leurs besoins, un meilleur transport en commun, moins de voitures en ville. Mais après une gouvernance complètement décalée pendant des années, beaucoup de gens n'ont pas le choix et doivent maintenant se déplacer en voiture. Les dirigeants trouvent alors des excuses pour continuer à appliquer des politiques dénoncées il y a 60 ans par d'autres villes dans le monde.
En matière sociale, tout n'est pas rose non plus. Sofia a de loin le PIB le plus élevé du pays. Il s'élevait à 13 000 euros par habitant en 2015, contre 6 000 à Varna, deuxième ville du pays. Le revenu moyen y est aussi supérieur, avec 600 euros par mois contre 500 dans l'ensemble du pays. Mais ça veut aussi dire que la capitale est une ville chère. Les retraités sont un des groupes les plus vulnérables, avec peu d'espoir de voir leur pension augmenter, confie Nicolai.
Les prix du gaz augmentent, le prix de l'électricité augmente, le prix de l'eau et du chauffage augmente aussi. Où trouver tout cet argent ? Depuis 6 ans, ma retraite a augmenté d'un euro et demi. Comment être content avec ces prix qui augmentent tout le temps ?
Pourtant, Sofia n'a pas que des défauts. C'est une ville très vivante. Les cafés, les restaurants et les bars sont pleins à craquer, même la nuit. La vie culturelle est très riche aussi. Les théâtres sont très fréquentés. L'opéra se réinvente avec des spectacles en plein air. Malgré son urbanisation parfois absurde, c'est aussi une ville verte. Ses grands parcs ont été reconstruits et sont maintenant éclairés la nuit. C'est ce que Radina apprécia avant tout.
Même dans les quartiers populaires, en banlieue, on peut trouver des petits jardins qui résistent au BTP, où il y a de la verdure. On ne fait pas que déraciner. Il y a des endroits comme ça où les petits peuvent courir dans tous les sens et où les mamans peuvent les surveiller au soleil.
Depuis plusieurs années, la mairie de Sofia fait face aussi à une prise de conscience de la part des Sofiotes. Lorsque l'urbanisme est allé trop loin et le boom de l'immobilier menaçait de bétonner des espaces verts dans un des quartiers de la ville, ses habitants n'ont pas hésité de contre-attaquer à coups de pétitions et de manifestations improvisées. Pour contrecarrer la centralisation de la prise de décision, les Sofiotes n'hésitent pas à demander des référendums locaux. Parfois, leurs représentants et les organisateurs des manifestations se font même élire. L'administration municipale doit aussi changer sa mentalité, souligne Prochko Prochkov, vice-président du conseil municipal.
De manière subjective, les gens ont souvent l'impression que la mairie ne fait rien. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je suis convaincu qu'il y a une chose qui va aussi permettre d'améliorer la qualité de vie, c'est la transparence. On devrait fournir des informations sur ce qu'on fait aux particuliers et aux entreprises. On devrait leur montrer tous les contrats qu'on signe. Il faut faire des registres. Tout ça pour qu'il y ait un contrôle réel. Et lorsqu'il y a un problème, les ONG et les gens intéressés seront toujours les premiers à réagir.
Sofia est en train de se métamorphoser. Il va falloir qu'elle se montre, car l'ouverture de lignes aériennes low cost la met face à un nouveau défi, le tourisme.
Sortir.
Et si la ville allemande de Munich est bien classée, ce n'est pas forcément la vie de tout le monde. Munich délaisse ses toilettes publiques et c'est très mauvais pour son image auprès des visiteurs, à tel point qu'une guide touristique a décidé de mener campagne en organisant des visites accompagnées des lieux emblématiques à Munich, Pauline Curté.
La drôle de visite démarre sur la Marienplatz, la place principale de Munich. La guide Barbara Reiss, à l'origine de ce projet peu ordinaire, emmène le groupe dans les toilettes, toujours très propres, de la station de métro. Le problème, elle coûte cher, 60 centimes d'euros par personne. Et cachées derrière un distributeur de billets sans indication, elles sont très difficiles à trouver. La visite continue ensuite dans le centre-ville de la capitale bavaroise, alternant pendant deux petites heures entre toilettes sales, inaccessibles, trop chères ou fermées en pleine journée. Le but de Barbara Reiss n'est pas de distraire les visiteurs, mais bien de s'en prendre à la qualité des services d'hygiène publique de Munich. D'après elle, il est inacceptable qu'une métropole de plus d'un million d'habitants, qui accueille 14 millions de touristes chaque année, ne compte qu'une centaine de toilettes publiques, certaines étant dans un état lamentable et d'autres très difficiles à trouver si on ne connaît pas bien la ville. Pour le moment, la guide touristique n'a pas eu de retour de la part de la mairie sur son initiative, mais elle espère faire avancer un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité locale, surtout au moment de la fête de la bière fin septembre, qui accueille des millions de visiteurs, amateurs de bière et donc bien souvent à la recherche de lieux où se soulager. Et il faut croire que le sujet, loin d'être anodin, intéresse les Munichois. Barbara Reiss organise la visite une fois par mois et jusqu'à présent, elle a réuni à chaque fois une bonne vingtaine de personnes. La preuve que les toilettes restent, peut-être plus que n'importe quel autre sujet, un thème grand public.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Sophie Janin. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe. À demain.